Vous écoutez
RMC.
3, 2, 1, France-Angleterre 2024, c'est parti. Thomas Ramos, le partir qui l'a profité. Freeman à la 75e.
Allez, il s'élance.
6,54 face au poteau. Ce ballon qui part.
Ça part,
il y aura
ça
la distance.
Bien,
il y aura ce tir. Oui, ça passe pour Thomas Ramos.
C'est pas fini encore.
Ça passe pour les Bleus.
RMC Bartoli. À la folie.
Ah oui, un match d'anthologie, un coup de génie pour finir, les frissons encore en entendant nos commentateurs. Les Bleus sont passés par tous les états hier pour finalement s'imposer face à l'Angleterre. Une victoire qui permet au 15 de France de terminer deuxième du tournoi des Six Nations. Une place inespérée, c'est vrai, il y a encore une semaine. Notre commentateur est avec nous, la voix des Bleus sur RMC,
oui.
Wilfried Templier. Bonsoir Wilfried.
Ça va mieux.
Bonsoir,
Wilfried, c'est bon? T'as récupéré,
ça va mieux, ouais, ça va mieux. JC m'écoute le matin, il m'écoute le soir, il m'écoute en s'endormant peut-être.
Ah mais ça c'est sûr. Bah, ce soir je me refais.
Bon, je vous laisse tous les deux. Ça va être
pourras pas trop t'endormir avec ça, mais bon.
Non, reste Marion. Pour débriefer ce tournoi, Florian Grill, le président de la Fédé, l'invité de Marion Bartoli, un président qui n'est pas avec nous dans le studio RMC pour une fois, mais à quelques centaines de mètres au stade Jean Bouin, dans les tribunes pour la finale du tournoi B ce soir entre le Portugal et la Géorgie. Bonsoir Florian.
Bonsoir
Florian, et merci infiniment d'accepter mon invitation. Comme l'a dit Jean-Christophe, vous êtes au stade Jean Bouin pour la finale de ce tournoi B. Alors après un match absolument incroyable, hallucinant, de rebondissement, de stress entre la France et l'Angleterre, vous étiez dans quel état? Franchement, président, au moment où Thomas Ramos s'élance pour tirer cette pénalty à limite de la fin, une pénalty de 50 mètres, vous l'avez vécu comment?
J'étais extatique, d'ailleurs merci d'avoir remis l'ambiance, parce que c'est une ambiance complètement folle dans ce stade de Lyon qui était absolument génial. On avait fait une grosse animation d'avant-match aussi, et je pense que le public a été incroyable toute la partie. On a vécu un moment de rugby qui restera dans les mémoires.
Alors, il y a eu énormément d'essais, on a entendu bien sûr Denis Charvet, Wilfried Templier s'enthousiasmer devant ces essais, mais il y a eu aussi que bas pendant ce match, mais les Bleus n'ont absolument rien lâché. Cette victoire qu'ils sont allés chercher au, comme ça, du suspense, est-ce que ça efface un petit peu le tournoi qui a été quand même assez compliqué pour eux?
Non, rien n'efface rien, mais d'une manière générale. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'était pas un tournoi facile après le choc de la Coupe du Monde, après avoir vécu ce moment intense de la Coupe du Monde. Et donc moi j'ai beaucoup aimé la transition humaine, l'intelligence humaine dans le management qu'il y a pu y avoir de la part de Fabien, de la part de l'ensemble du staff, de la part de Jean-Marc Lhermé qui travaille sur le haut niveau à mes côtés aussi. Voilà, on a pris notre temps, on a respecté les hommes. Et je pense que c'est ça qui est beau en fait dans cette histoire. C'est pas un tournoi facile, il faut rien effacer, mais on a respecté les hommes, on a pris son temps et on a construit quelque chose pour finalement finir deuxième. C'est un bon résultat.
Respecter les hommes, attention président, vous êtes en train de prendre les phrases et les mots de votre sélectionneur Fabien Galthié. Hein.
Ah bah alors, je ne savais pas, je ne l'ai pas entendu parler après ça.
Depuis deux semaines, il nous dit c'est les hommes, d'abord le cœur des hommes et tout ça.
Ouais, mais écoutez, je ne l'ai pas entendu, on ne s'est pas parlé, mais on pense vraiment la même chose. Je pense que, enfin en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai ressenti son attitude dans les vestiaires après le premier choc face à l'Irlande. Voilà, je pense qu'il faut donner du temps au temps, il ne faut pas faire des embardées. En management, ce n'est pas les bonnes stratégies. Je pense qu'il faut donner du temps au temps long et voilà, une équipe, ça se construit et ça se respecte aussi.
Wilfried Templier avec le président Florian Grill.
Il est réussi ce tournoi, président?
Oui, et puis il est réussi d'un point de vue humain. Après, il y a bien sûr des matchs qui n'étaient pas satisfaisants du point de vue du contenu. Et puis après, il y a cette fin de tournoi qui est complètement folle, qui est d'ailleurs rend service au rugby, parce que c'est l'ensemble des matchs des deux derniers week-ends pour le tournoi Destination ont été complètement fous. Voilà, moi je pense que ça contribue à l'envie de rugby qu'il y a dans ce pays qui est considérable. On voit des taux de croissance partout, on voit la croissance aussi du rugby féminin. Là, je suis, vous avez parlé du match de la finale, mais je suis sur un Espagne-Roumanie en ce moment. Il y a du monde à Jean Bouin aussi, voilà, il y a envie de rugby dans ce pays.
On a beaucoup parlé du traumatisme du mondial, vous l'avez évoqué. On a vécu un match hier soir qui ressemblait un peu, de par le style de l'adversaire, l'Angleterre, un peu le style de l'Afrique du Sud. Et comme l'a dit Fabien Galthié, cette fois-ci, on a gagné. Est-ce que c'est enfin réglé, cette question? Est-ce que le mondial est soldé? Ils vont passer à autre chose. Est-ce que vous pensez ça?
Bon, on soldera jamais le mondial, ça restera toujours dans un coin de notre tête. Mais après, oui, il faut pas ressasser le passé en permanence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. C'est la manière de préparer la suite. Là, il y a un tournoi féminin qui va démarrer. Ensuite, on a les Jeux Olympiques. Après, bien sûr, on a la Coupe du Monde 2027. On est en train de se mettre en ordre de marche pour tout ça. Il faut qu'on soit bon avec nos 13 équipes de France. Il faut qu'on soit bon sur le poids de la fédérale internationale. Puis, il faut qu'on en profite pour développer le rugby par la base. Parce qu'en France, il n'y a pas assez de gens qui profitent du rugby et qui peuvent se transformer grâce au rugby. Il faut qu'on augmente le nombre de licenciés. Et c'est une des stratégies de la fédération.
Alors on sent un président déjà en campagne. On parlera des élections un petit peu plus tard avec vous. Florian Grill est notre invité exceptionnel dans Bartoli Time pour débriefer ce tournoi Destination. Président, vu que vous n'avez pas vraiment entendu le sélectionneur, c'était hier en conférence de presse, parce qu'il évoque un mot assez dur pour évoquer ce tournoi si particulier pour lui.
On a vécu un tournoi d'enfer. C'était brûlant, il n'y avait pas de répit. On était tout le temps sur la brèche. On était parfois sur la cime. On était parfois sur la tranche. Il fallait être solide. Je parle des joueurs, je parle du staff. Parce qu'à un moment, il fallait que nous, on apporte aussi de la puissance. Quand on sentait que les gars, ils en manquaient un peu, qu'ils doutaient, qu'ils étaient un peu chahutés. Parce que si on les prend, on a envie qu'ils vivent des bons moments. On a vécu autre chose.
On a vécu un tournoi d'enfer, heureusement pas un tournoi en enfer. Est-ce que vous avez trouvé à ce moment-là, surtout après les trois premiers matchs, la presse, les suiveurs, trop durs avec ces Bleus?
Non, mais la presse est dans son rôle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le président de la Fédération Française de Rugby que je suis, ou Jean-Marc Lhermé à mes côtés, nous on a voulu apporter de la sérénité, de l'apaisement dans un moment difficile pour les joueurs, difficile pour le staff. Et je pense que c'était notre responsabilité de le faire comme ça. Et on regrette pas cette manière de manager, mais qui nous correspond. C'est dans la vie, je pense qu'il faut être aligné. Et on est aligné avec nos principes de vie et nos manières d'être.
Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous parlez d'apaisement, justement, de sérénité. Qu'est-ce que vous avez fait?
On a donné de la confiance. Enfin, moi, dès le premier match, il y a des gens qui m'ont dit il faut que Fabien Galthié parte, il faut que s'il parte, etc. Mais bien sûr que non, on ne prend pas des décisions comme ça à l'emporte-pièce. On n'avait pas décidé non plus de le conserver juste sur le résultat d'un match de quart de finale de Coupe du Monde. C'est pendant 6 mois, on a eu le temps de découvrir Fabien avec Jean-Marc, de voir la qualité du management et la manière dont il travaillait. Et donc ça nous convient parfaitement. Et c'est pas le résultat d'un, deux ou trois matchs qui doivent tout changer. Donc voilà, c'est ça que j'appelle manager dans la durée. On n'est pas à réagir à l'emporte-pièce sur le premier coup dur. Au contraire, moi je pense que les difficultés construisent les victoires de demain. Tout le monde le sait bien, quand on est dans le rugby, il faut des moments difficiles pour construire des belles victoires demain.
Il faut faire le dos rond, et c'est vrai que Fabien Galthié l'a fait le dos rond, et il l'a dit après le troisième match. Il l'a reconnu lui-même en conférence de presse en disant que quand on est sélectionneur, sa position est forcément fragilisée. Est-ce qu'à un moment donné, ça vous a trotté dans la tête de vous dire
Non, mais pas du tout. Absolument, à aucun moment ça m'a trotté dans la tête, ni dans la tête de Jean-Marc. Je pense qu'on fait bloc avec l'équipe, avec les joueurs, avec le staff, et c'est comme ça que le rugby avance. Voilà.
Florian Grill avec nous, le président de la Fédé, Marion Bartoli avec Florian Grill.
Mais moi, j'ai une question qui m'intéresse énormément, parce qu'effectivement, vous avez parlé, et en tennis, c'est la même chose d'ailleurs, au plus haut niveau, quand on parle des périodes plus compliquées en termes de résultats, généralement, on fait corps avec son équipe de coaching, et puis on arrive à redonner de la confiance, à repartir de l'avant. Après ce match nul contre l'Italie, où beaucoup même ont parlé de hold-up, puisque il y a la possibilité éventuellement de battre la France sur la fin de ce match, vous êtes dit quoi entre vous, les joueurs, Fabien Galthié, les réunions en interne que vous avez eues, c'était quoi le maître mot? Redonner de la confiance aux joueurs, mettre du calme, resserrer les rangs? Comment vous avez géré ça?
Alors, au quotidien, en toute humilité, c'est pas moi qui ai géré ça. Hein. C'était Fabien, c'était Jean-Marc, c'était l'ensemble du staff. Mais voilà, on s'est dit, on prendra le temps qu'il faut, mais on va y arriver. Et puis, je pense que les joueurs ont renvoyé beaucoup de confiance à Fabien, parce que l'attitude qui a été la sienne de pas exécuter les gens a été perçue comme la bonne par les joueurs, et ils l'ont dit, et je pense qu'ils ont bien fait de le dire et de le reconnaître, et je pense que c'est dans des moments charnières et un peu cruciaux comme ça qu'on fait les différences. Voilà, je suis vraiment persuadé de ça, et en serrant les coudes, on épaissit un peu la peau, et on construit des équipes beaucoup plus fortes.
On a un commentateur avec nous qui s'appelle Wilfried Templier, et là vous êtes au stade. Est-ce que vous pouvez commenter ce que vous voyez? Il y a eu un essai devant vous ou pas?
Oui, à l'instant, l'Espagne vient de marquer devant la Roumanie, 33-12. Voilà pour la troisième place.
Il faut mettre un peu plus d'enthousiasme, président.
Il y a moins d'enthousiasme que Wilfried, président. Il va falloir faire un stage chez RMC, je crois.
Voilà, avec le jingle. Regardez, le score, s'il vous plaît,
Florian Bailly. On a mis le jingle. Comme ça, Florian, si à un moment donné, les élections, on verra comment ça se passe, n'hésitez pas, évidemment, à commenter du match sur RMC.
C'est pas la conversion possible.
La boutade est terminée. Wilfried Templier.
Oui, on parle beaucoup de Fabien Galthié, président, parce qu'il cristallise beaucoup de choses. Il est symbolique, il représente beaucoup de choses à la tête de l'équipe de France. On a parlé aussi beaucoup de sa communication, en partant du jeu referé exactement la même chose après le quart de finale perdu à le contenu est parfait en Écosse. On va l'entendre après, même s'il s'en expliquait. Est-ce que parfois ça vous arrive d'en discuter avec lui? Parce qu'il est d'une certaine manière, il représente aussi la Fédération française de rugby.
Oui, mais bien sûr qu'on en a parlé. Sur le contenu, d'ailleurs, il a un peu corrigé le tir après. Il a confirmé que quand il parlait de contenu, c'était en fait plutôt le contenu humain de la semaine qui avait été bon et pas le contenu du match.
Donc, du match, ouais.
Bien sûr qu'on en a parlé. On a parlé une petite heure ensemble au téléphone pour parler de ces choses-là. Voilà, c'est très clair. Bien sûr que personne n'est parfait. Il y a des points d'inflexion, il y a des points de correction en permanence. Et il en parle beaucoup avec Jean-Marc, un petit peu avec moi quand j'en ai le temps parce que j'ai pas mal d'autres sujets. Donc je pense que le rôle d'un président, c'est de savoir déléguer, de mettre les bonnes personnes au bon endroit. C'est le cas avec Jean-Marc Lhermé, c'est le cas avec Abdelatif Benazi qui bosse sur l'international, c'est le cas avec l'ensemble des équipes qui m'entourent. On est sur plein de chantiers à la fois et donc on se répartit un petit peu les rôles. Mais oui, bien sûr qu'on parle de ces choses-là.
Vous parlez de ces choses-là. Alors évidemment, vous n'entrez pas dans les détails, mais sur cette communication qui a souvent été critiquée, il faut se dire les choses aussi. Elle a été critiquée et il a su s'adapter. Qu'est-ce que vous avez pu lui dire? Vous êtes le président, vous entendez Fabien Galthié qui parle de match parfait après l'Écosse. Vous avez envie de lui dire quoi? Envie de lui dire, bon, faudrait peut-être faire différemment?
Non, il a parlé d'un contenu parfait. Il parlait du contenu humain, pas du contenu du match. Il l'a corrigé après, dont acte. Voilà, parfait.
Rien de plus sur la communication de Fabien Galthié?
Non. Enfin, je pense que si. Après, on s'est dit aussi qu'il fallait qu'il parle un peu plus aux supporters aussi. Parce que je pense que les supporters avaient envie de l'entendre indirectement. Mais voilà, je pense que... vous savez, il y a tellement de détails à ce poste de manager du 15 de France. Il y a tellement de points, c'est tellement sous le feu des médias en permanence qu'il y a forcément des points d'amélioration tout le temps. Mais Fabien est un perfectionniste. Franchement, moi, je suis assez bluffé par le travail qu'il fait, par la manière dont il donne la parole à tout le monde. Les débriefings d'après-match, tout le monde parle. L'ensemble des membres du staff est appelé à donner son impression, à donner son avis sur la manière dont les choses sont passées. Moi, j'aime vraiment beaucoup le management que j'ai découvert au fur et à mesure, et je suis très sensible à l'aspect managérial. Je m'implique pas sur le volet technique, j'ai pas la compétence qui est celle de Fabien ou qui est celle de Jean-Marc sur ce genre de sujet, mais je suis très attentif à la manière dont les gens managent, et je pense qu'en termes de management, franchement, c'est du haut niveau.
Et ça vous a pas échappé qu'au début du tournoi, c'est vrai qu'il parlait de 80-90% du groupe qui pourrait aller en Australie en 2027, et qu'au final, il y avait eu beaucoup de nouvelles têtes et beaucoup de fraîcheur. Il s'est adapté aussi, Fabien, sur ce coup-là.
Je pense que les grands managers s'adaptent en réel à la vérité de ce qu'ils rencontrent au jour le jour. Donc bien sûr qu'ils s'adaptent au fur et à mesure, et il y a des inflexions qui sont faites au fur et à mesure. Et heureusement qu'on n'est pas dogmatique et qu'il n'y a pas une vision fermée et ad vitam pour toujours. Voilà.
Après les trois premiers matchs, vous avez vu les débats fleurir un peu partout, hein, notamment sur RMC. Est-ce que vous aussi, vous avez commencé à regretter l'absence d'Antoine Dupont?
Pas du tout. Je pense qu'encore une fois, Antoine Dupont, il a décidé, il a eu envie, il a exprimé le besoin et l'envie et le rêve de faire les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et moi, on ne pouvait pas le lui refuser. Enfin, qui peut imaginer une seconde qu'on dise à un joueur comme ça, non, on t'interdit de faire les Jeux Olympiques et tu vas faire le tournoi destination. Enfin, ça ne tient pas la route. Donc, et puis bon, je pense que maintenant, l'affaire est close. J'ai envie de dire qu'il a démontré en deux tournois à quel point c'était formidable de l'avoir dans l'équipe. Ça a été d'ailleurs là aussi en termes de management, ça a été du grand art de la part de Jérôme Daré et du staff de l'équipe de France A7. Ils l'ont fait rentrer très progressivement dans l'équipe, il a gagné sa place. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'intelligence managériale que j'ai pu ressentir là-dessus aussi. C'est du grand art parce qu'il n'est pas arrivé Deus ex machina, soudainement je suis Antoine Dupont, je vais vous montrer la vie. Bah, il est arrivé, il a gagné sa place, il la gagne progressivement.
Oh, il aura montré la vie quand même. Hein.
il a... bah, il aura mont... Ouais, mais peut-être, mais n'empêche que c'est, voilà, c'est pas, ça n'a pas été décrété. Ça a été prouvé. Et je pense que maintenant, personne ne doute de l'intérêt. Et puis, franchement, je pense que le rugby français va bénéficier dans son ensemble de la médiatisation qu'on va avoir avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis, quand on y sera, bah, tout le monde dira, bah, finalement, on a bien fait d'avoir Antoine Dupont.
Est-ce que, président, puisque Antoine Dupont doit revenir avec cette équipe de France après les JO, au mois de novembre, on a une tournée avec 3 matchs, Japon, Nouvelle-Zélande, Argentine, est-il, Antoine Dupont, assuré de récupérer son capitana, puisque l'intérim s'est fait Grégory Aldrit pendant le tournoi?
Ça relève pas de ma décision, ça relève de la décision de Fabien.
Ça, c'est quelque chose que, voilà,
sur bah, moi, je respecte, vous savez, moi, j'ai changé pas. Non, bon, pas du tout. Moi, j'ai des managers, je leur confie des responsabilités, ça s'appelle la délégation. Et j'ai pas vocation comme président à mettre un entraînement, à mettre un survêtement et à être au bord du terrain et à faire le boulot des autres.
Alors parlons des dossiers qui vous concernent, président. Florian Grill est avec nous, l'invité exceptionnel de Bartoli Time ce soir. Marion, tu voulais parler de ce match à Lyon et de ces matchs en province là qui ont eu lieu en raison des Jeux Olympiques, donc le Stade de France n'a pas pu être occupé.
Absolument, président. Moi, j'aimerais revenir sur cet élément parce qu'on l'a entendu dans le sujet au début de Wilfried. Il y avait une ambiance absolument hallucinante et incroyable hier à Lyon. On a parlé souvent délocaliser les matchs du 15 de France et j'ai l'impression que ça ferait du bien peut-être aux Français aussi d'en délocaliser plus, même si le Stade de France est disponible. Est-ce que vous allez dans ce sens? Antoine Dupont était hier présent dans les tribunes à Lyon également.
J'ai mal entendu votre question.
Vous allez pousser vers d'autres matchs en province?
Ouais, écoutez, là, enfin, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, les matchs au Stade de France nous permettent une économie plus rentable que les matchs en province. Il y a plus de jauge, il y a 80 000 places quand on n'a pas 80 000 places dans tous les matchs en province. Il y a plus d'hospitalité aussi, donc d'un point de vue économique, c'est plus rentable de jouer au Stade de France. Maintenant, l'écart s'est considérablement resserré. J'ai eu l'occasion de le dire aux concessionnaires qui se présentent pour la reprise du Stade de France et franchement, les matchs en province ont leur intérêt aussi. Je pense qu'en plus, si on devait en faire plus régulièrement, on pourrait les négocier plus intelligemment les conditions. Donc je ne m'interdis rien. Je l'ai dit, pour s'agissant du Stade de France, si les propositions qui nous sont faites ne sont pas suffisamment intéressantes, on n'hésitera pas à jouer en province, voire à trouver d'autres solutions. Il y a des gens qui m'ont parlé du Parc des Princes, je trouve ça toujours intéressant, mais bon, il y a aussi un problème de jauge, mais on peut imaginer de faire au moins un match délocalisé à l'étranger une fois par an, enfin voilà, donc il faut qu'on ait des propositions vraiment intéressantes de la part des deux candidats au Stade de France pour continuer à jouer au Stade de France, et donc les matchs en province, ouais. Oui, c'est possible.
Le Parc des Princes sera bientôt libre.
Oui.
Voilà, m'a-t-on dit.
Mais Florian, est-ce que c'est pas un coup de canon en l'air aussi, ça, au moment de négocier avec des futurs acquéreurs du Stade de France, et que est-ce que vous êtes vraiment sollicité en province parce que ça attire certainement économiquement l'équipe de France, mais vous parliez que vous perdiez 2 millions d'euros par match en ne jouant pas au Stade de France.
Ça c'était avant. Oui. Depuis, on a considérablement resserré. Là, on va faire plus de 2 millions de recettes supplémentaires et même de résultats supplémentaires sur la billetterie. Sur l'ensemble de ce tournoi, parce qu'on a beaucoup.
Donc il y a toujours un déficit, ou finalement vous êtes à l'équilibre?
Non, on est en train de resserrer. Enfin, on a hérité d'un déficit très important et on est en train de faire notre boulot. On va faire 10 millions d'euros d'économies et 5 millions d'euros de recettes additionnelles. Et je peux vous dire que les choses sont en train de se mettre en place. Tout avance positivement et je pense qu'on va y arriver. Peut-être pas dès la première année, ça c'est certain, mais on est en train de remonter la pente très 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 vite avec beaucoup de bonnes décisions.
Juste, vous avez dit, j'y sais, je me permets, un match à l'étranger de l'équipe de France, parce qu'il y a un match, je sais pas une sélection contre une sélection mondiale et des jeunes, un match à l'étranger de l'équipe de France, c'est possible?
Oui, si on n'a plus accès au Stade de France ou si on a des conditions au Stade de France qui sont pas satisfaisantes et qu'on veut aller chercher une fois par an une très grosse jauge, oui, je m'interdis pas cette possibilité. En tout cas, je l'ai dit aux deux candidats au Stade de France, c'est une possibilité dont on ferme pas la porte.
Vous pensez à Wembley?
Peut-être pas chez les Britanniques quand même.
Non. On va aller jusque là.
Ok, pour que les auditeurs comprennent bien, évidemment, Florian Grill avait répété fin février que s'il n'y avait pas d'accord, en tout cas assez bénéfique pour le 15 de France, eh bien vous iriez jouer ailleurs. On a parlé de province, mais là, ce soir sur RMC, vous nous parlez, pourquoi pas, de la possibilité d'aller jouer à l'étranger. Concernant
un match, bien sûr,
on a bien compris. Concernant le volet financier, c'est vrai qu'on a parlé, et vous l'avez déclaré en décembre dernier, un déficit d'exploitation de 40 millions d'euros en deux saisons. Comment on arrive à gérer une fédération dans le rouge?
Bah, écoutez, donc c'est 40 millions d'euros effectivement sur deux saisons. Comment on y arrive ? En resserrant un petit peu tout, c'est-à-dire qu'on a réduit non pas les staffs des équipes de France, mais un peu le train de vie. On fait des stages plutôt à Marcoussis. On peut réduire un peu l'hôtellerie sans que ça ait un impact sur la performance sportive. On gère beaucoup mieux la billetterie et donc on a, je vous l'ai dit, plus de 2 millions d'euros de recettes additionnelles sur la billetterie qui impacte directement le résultat simplement parce qu'on a coupé dans les invitations. On réduit les dépenses qui ne sont pas utiles. On est centimier. Moi, je suis un patron de PME. Voilà. Et puis, je suis issu du rugby amateur où on fait attention à chaque euro investi. Je peux vous dire que quand on passe tout en revue, il y a plein d'endroits où on peut économiser. On réserve aussi les billets d'avion beaucoup plus à l'avance. On mutualise les 13 équipes de France. S'il y a 13 équipes de France et chacun négocie un petit peu dans son coin. Enfin, il y a plein de leviers pour améliorer. Et puis, on a entrepris un grand plan et un grand passage en revue de toutes les dépenses à la fédération. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des marges de manœuvre et on est en train de toutes les mettre en œuvre. Et petit à petit, on va y arriver.
Oui, c'est pas facile de faire une campagne en parlant d'économie, Florian, parce qu'en fin d'année, il y a les élections.
Oui, mais moi,
les élections.
Non, mais moi, je m'en fiche, je vais vous le dire très clairement. Moi, ma responsabilité, elle est vis-à-vis du rugby. Y a des gens qui m'ont dit ouais, on fait pas une campagne en faisant 10 millions d'euros d'économie. Et bah si, on va faire une campagne en faisant 10 millions d'euros d'économie parce que c'est l'intérêt supérieur du rugby. Voilà. Et puis la campagne, écoutez, moi je pense que les gens, vous savez, les clubs, ils entendent très bien ça, hein. Ils comprennent très bien, tout le monde sait très bien d'ailleurs que le rugby d'une manière générale dépense un peu l'argent qu'il a pas. Il y a les pauvres clubs territoriaux qui tirent le diable par la queue, et puis il y a les clubs nationaux, il y a les clubs fédéraux, il y en a qui ont déposé le bilan parce qu'on dépense une masse salariale qui est trop importante par rapport à ce qu'on est capable de porter. Et je pense que la Fédé se doit d'être exemplaire. Les 10 millions d'euros d'économie, il faut qu'on les fasse. Et il faut aussi que tout le monde comprenne qu'il faut dégonfler un petit peu la bulle du rugby parce qu'on n'est pas le football, on n'a pas vocation à le devenir et on a vocation à être sur une économie raisonnable.
Marion, justement, sur les élections.
Absolument. Donc Wilfried effectivement a parlé de la campagne pour les prochaines élections. Les prochaines élections qui auront lieu le 19 octobre prochain. Vous pensez pouvoir la gagner, cette campagne, cette nouvelle élection, président ?
Oui, oui. Enfin bon, il y a du temps. Hein. On n'est pas encore en campagne. Moi, je sillonne le terrain depuis 6 ans ou 7 ans et je l'ai fait en dehors des périodes d'élection. Donc, je le fais tout le temps. C'est mon plaisir. J'adore ça. Moi, je suis issu, encore une fois, des clubs amateurs. Donc, je continue et voilà, nous on a 4 axes qui sont très clairs pour la fédération. On veut faire gagner nos 13 équipes de France, on veut augmenter le poids de la fédération à l'international, on veut trouver des sous pour les clubs amateurs autour de ce que j'appelle la fédération à mission. On l'a déjà trouvé avec Total Energy qui nous a donné 1 million d'euros, et on est peut-être en train de boucler un accord avec Adidas pour équiper toutes les équipes féminines avec des jeux de maillots. On a d'autres dossiers en cours, puis on veut relancer le nombre de licenciés. Voilà, donc c'est notre boulot, c'est ça, on le fait, je pense qu'on le fait bien. Tout avance, les planètes sont en train de s'aligner. J'ai pas de. Voilà, il y aura une campagne, tant mieux, ça, c'est la démocratie. Après, est-ce que je suis inquiet ? Non.
Non, mais on a entendu au début de votre réponse le oui, bon, est-ce que je vais la gagner ? On n'a pas senti une sérénité, président. C'est moi, je me fais des idées.
Oh, vous faites des idées. Non, je suis très déterminé.
C'est juste l'interprète. Il interprète tout, vous savez.
Non, c'est de l'interprétation. je suis un seconde ligne besogneux, résilient. Non, ça me gêne pas du tout de faire campagne. Et bon, après, je sais pas qui seront les candidats en face de nous. Il y a plusieurs noms qui circulent, des grands noms d'ailleurs. Didier Gourdon, oui. Pourquoi pas. Il est bienvenu. Enfin, moi, j'ai pas de problème. Mais bon, nous, on fait le boulot. On laboure le terrain et surtout, on fait le travail pour les clubs amateurs. Et je pense que les clubs amateurs, ils le voient bien.
Justement, Wilfried.
Oui, Didier Codorniou devrait être candidat face à vous, c'est ce qu'on entend, c'est la petite musique qui monte, chef de file d'opposition, soutenu notamment par le camp de Bernard Laporte, par Claude Haché, vous savez très bien les gens aussi qui peuvent y avoir derrière, par Serge, on parle de Serge Blanco, de Jean-Claude Scrella aussi avec eux. Oui. Est-ce que Florian, vous avez l'impression d'être un peu seul contre tous là, quand on met tous ces noms ensemble et qu'ils se...
Oui. Bon, écoutez, moi, je Abdelatif Benazi, Jean-Marc Lhermé, et puis toute l'équipe qui m'entoure, des gens qui sont moins connus, mais qui sont issus du rugby amateur comme moi, et qui ont fait des preuves depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans à s'occuper du club du quotidien. Alors, franchement, je suis pas inquiet. Voilà, je pense que vous savez, d'abord, les grands noms, j'en ai aussi, si tant est que ce soit si important que ça, mais moi, je pense surtout, ce qu'il faut, c'est les compétences.
Et c'est pas ce que je disais, c'est que ça, il y a une agrégation de gens de plusieurs courants, quoi, ce que je voulais dire.
Oui, bah écoutez, mais tant mieux, c'est la démocratie. Il faut que les clubs parleront, et puis on verra bien.
Une dernière chose à voir avec vous, Président, c'était il y a quelques mois, c'était le 19 novembre dernier. C'est pas le moment qui va vous faire le plus plaisir de l'interview, hein, je vous le dis tout de suite. C'est Bernard Laporte qui était notre invité, il venait d'arriver à Montpellier et il vous accusait à demi-mot de ne pas avoir assez pesé dans les instances lors du Mondial, notamment sur l'arbitrage. On réécoute cet extrait parce que je voudrais avoir votre sentiment tout de même sur cette sortie qui a pu surprendre.
Le rugby français en avait besoin. Mais là, encore une fois, je pense que certaines personnes ont tout cassé. Mais on le dira le jour qu'il faudra. Certaines personnes ont tout cassé. On aurait dû être champion du monde. J'ai travaillé pendant 6 ans avec eux. Je sais de quoi je parle. J'étais vice-président, moi, pendant 2 ans. Et pendant 4 ans au board avec eux. D'accord ? Mais ça a toujours été comme ça. Mais là, c'est vrai qu'on avait l'impression de ne pas jouer une Coupe du Monde à la maison. C'est une évidence.
Florian Grill.
Bon, écoutez, je ne vais pas commenter. Il n'y a pas de... Sincèrement, ça sous-entendrait que, en fonction de son rôle, on a un impact sur les arbitres. Je ne crois pas à ça. Moi, je défends trop les arbitres. Les arbitres sont indépendants. Un arbitre peut se tromper comme un joueur peut se tromper, mais il n'y a pas d'impact sur les arbitres. Ou alors, j'ai été très bon sur les derniers matchs du tournoi des Six Nations, puisqu'il semblerait que cette fois-ci, la pièce soit de temps en temps tombée de notre côté. Non, mais je ne veux pas commenter ce genre de propos.
Non, mais Florian, vous comprenez qu'en fait, ce qui nous interloque, c'est qu'effectivement, il y a bien évidemment deux discours différents. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans un débat, c'est d'avoir des opinions différentes. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est cet énervement finalement qu'a Bernard Laporte et la façon dont il l'exprime, parce que c'est moi qui ai réalisé cette interview, donc je le sentais vraiment par rapport à vous. Où effectivement, on a l'impression d'avoir plus de recul, plus de calme. Est-ce que les arguments qu'il décrit, vous arrivez à les entendre, ou pour vous, vous êtes vraiment, il y a aucun pourcentage de vous qui est d'accord sur ce qui vient d'être déclaré?
Non, bon, il n'y a aucun pourcentage de moi qui est d'accord sur ce qui vient d'être déclaré. J'ai pas de... Voilà, non, mais chacun... Écoutez, moi j'ai beaucoup de respect pour Bernard Laporte, entraîneur. Il est d'ailleurs en train d'avoir des résultats avec l'équipe de Montpellier. Et tant mieux, je suis d'origine montpelliéraine, donc moi je... Voilà, mais... Mais
vous
après,
lui.
Bon, voilà, d'une certaine manière. Mais je suis pas sûr qu'il ait envie de m'avoir derrière lui. Mais s'agissant de la manière de gérer la Fédération française de rugby et la manière de la présider, etc., on est complètement à l'opposé. Donc voilà. Donc non, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Mais c'est pas. J'ai envie de dire, c'est pas très grave et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour développer le rugby dans les écoles. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour aider les clubs amateurs. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour donner des vestiaires féminins, parce qu'il y a un véritable scandale. Il y a des filles qui se changent dans les bus ou qui se changent dans les vestiaires arbitres. C'est ça, les vrais sujets du rugby du quotidien. Le sujet, c'est d'avoir une base solide et pas simplement d'avoir une grosse tête. À force d'avoir un petit corps, la tête de la grosse tête ne pourra plus être portée. C'est ça, la réalité du rugby. Il y a 2000 clubs de rugby en France. Il y a 13 000 clubs de foot, il n'y a pas assez de clubs de rugby, il faut qu'on crée des satellites d'écoles de rugby sur l'ensemble du territoire, parce que la proximité, c'est le premier critère de la pratique. Donc parlons des vrais sujets, les petites phrases, etc., ça ne m'intéresse pas.
Avant de vous libérer, direction le stade Jean Bouin avec Florian Grill au commentaire. Espagne-Roumanie, le temps que je le score.
35 à 19 pour l'Espagne.
Merci beaucoup.
À la 63e, j'essaie de progresser. Je sais que c'est ma reconversion qui est en jeu.
Vous voyez que ce n'est pas donné à tout le monde quand même.
Je m'incline devant Wilfried.
C'était une boutade.
C'était très bien. Boutade. Merci d'avoir joué le jeu et merci pour cette interview,
merci,
le débrief du tournoi Destination. Merci beaucoup.
Merci.
Florian Grill avec nous en direct dans Bartoli Time. Merci beaucoup Wilfried, on retrouve les bleus pas tout de suite. Hein.
Merci Wilfried.
Non, ce sera au mois de juillet, tournée en Argentine. Ce sera 2 matchs en Argentine et après la tournée de novembre, on l'a dit. Donc là, retour du top 14 de la Champions Cup, vers les phases finales bientôt, on va vers le printemps maintenant.
Ah oui, tu fais pas que les bleus, tu vas travailler quand même.
C'est une très belle conclusion.
Allez,
bonne soirée.
Repose-toi bien, merci Wilfried d'avoir été avec nous et merci pour ce week-end de France-Angleterre.